À l'heure de l'ubérisation, de la robotisation des tâches et des algorithmes auto-apprenants, un père trentenaire, un brin flippé, s'inquiète de l'avenir professionnel de ses jumeaux de 5 ans. À la rencontre de spécialistes de tous bords, il mène l'enquête sur les divers scénarios qui se préparent pour le travail de demain. Épisode 1.
Le Centre Vidéo de Bruxelles présente Curriculum Futurae, un podcast de Sébastien Disner à la recherche du travail de demain. Tout commence par un rêve, un stupide rêve. Je suis convoqué à l'Office pour l'emploi du futur. Je suis un peu nerveux, j'ai amené toute une liasse de documents pour bien montrer que je cherche du travail.
Bonjour Monsieur Disner.
Bonjour.
Vous savez pourquoi on vous a convoqué à l'Office pour l'emploi du futur, aujourd'hui ?
Non, pas vraiment.
Mais, asseyez-vous.
Merci. Je suis venu avec plein de documents, hein, donc des CV, des recherches d'emploi, des lettres
Monsieur
de motivation.
Monsieur Disner, Sébastien ?
Oui, c'est moi, oui.
Il y a erreur. Il ne s'agit pas de vous, mais de Disner Melville et Disner Marin.
Ah, mais ça c'est pas
vous possible. Les connaissez ?
Oui, c'est mes fils.
Âge ?
5 ans.
5 ans et
5 ans et 5 ans, c'est des jumeaux.
Sexe
Masculin. J'ai toujours eu envie d'une fille, mais bon, ils sont adorables.
Je vois dans leur dossier qu'ils n'ont pas encore trouvé de travail. Ah,
mais non, mais je vous ai dit qu'ils avaient 5 ans, donc je pense que c'est quand même un peu tôt pour...
Je suppose que vous êtes au courant.
Non, quoi ?
Afin d'optimiser la recherche d'emploi dans le contexte d'une réduction massive du travail sous la pression croissante de l'automatisation des tâches par les intelligences artificielles,
d'accord,
nous avons développé le programme Curriculum Futurae,
d'accord,
à l'attention des jeunes générations. Vous pouvez télécharger l'application sur votre smartphone.
Okay.
Monsieur Disner, vous comprenez ?
Non, pas vraiment en fait.
En clair, dans 20 ans, la moitié des emplois auront disparu.
Okay.
Alors si vous voulez que vos enfants aient un boulot plus tard, vous avez intérêt à vous y prendre tout de suite.
Ok. Ouais, c'est noté. Je vais y réfléchir. Enfin, je vais faire le nécessaire, quoi.
On se revoit dans 30 jours, avec un projet complet cette fois. En attendant, l'évaluation de vos démarches continue via l'application sur votre smartphone.
Où est l'avocat ?
Il est quelque part par là, je crois.
Mais c'est à mon tour, hein.
Il a raison. Vas-y. C'est quoi ça ? C'est une plombière ?
La médecin ! On n'a pas retourné !
Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec eux comme démarche ?
Attends, un apiculteur, une apicultrice...
Bon, bravo. Prenons le taureau par les cornes. Après tout, peut-être que ma conseillère a raison. Le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est.
Melville, toi tu veux faire quoi comme métier quand tu seras grand ?
Je veux faire... le royaume.
Ça veut dire que tu vas faire le dessin animé ou tu veux faire le lion ?
Le roi lion, je veux.
Mais tu veux... C'est un métier, ça, roi lion ?
C'est roi lion, ça veut dire que roi lion, je sais chanter.
Ah, tu veux chanter
c'est
le roi lion
encore, hein.
Quand tu seras grand. Et ça sera ton métier. Marin, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire quand tu seras plus grand comme métier ?
Mon métier, ce sera... Ce sera... Charbonnier. Celui qui fait du charbon.
Charbonnier ? Mais où est-ce qu'il allait chercher ça ? En plus, avec la fin des énergies fossiles... C'est mal barré, quoi.
Allô, Flo ?
Salut, Seb. Ça va ?
Je décide d'en parler à une amie.
Tu sais que... Quand on est face à une classe d'enfants de primaire, la plupart de ces enfants, ils feront dans le futur un métier qui n'existe pas encore.
Ouais.
Vous venez de recevoir une notification de l'application Curriculum Futurae.
Déjà.
Monsieur Disner, n'oubliez pas d'actualiser la recherche d'emploi du futur de vos enfants.
Ok.
Enregistrez message.
Cher conseillère du futur. Alors, je n'ai pas encore trouvé le futur métier de Melville Marin, mais par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de mettre à contribution mes compétences de fan de science-fiction pour tenter d'imaginer à quoi pourrait ressembler le monde du travail de demain. Pas juste pour Melville et Marin, en fait, mais pour tous les enfants de leur génération. Et ouais, rien que ça. Et après, si je trouve un métier du futur pour mes enfants dans l'eau, promis, je vous tiens au courant. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour faire ça.
Par exemple, tu vois, le GSM, moi j'avais prévu que c'était un feu de paille.
Ah ouais.
Donc, je vais avoir besoin d'aide.
À un moment, je m'étais intéressée à la question du travail et j'étais tombée sur Dominique Méda, une sociologue qui s'intéressait spécialement à ça, à la question du travail et des métiers du futur. Ce serait chouette que tu la rencontres.
Je suis professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine.
J'ai pu demander à la sociologue Dominique Médard si ça avait du sens de faire des scénarios sur l'avenir du travail.
Justement, j'ai pas mal écrit sur ce sujet du futur du travail ou de l'avenir du travail. Et j'ai moi-même tenté de faire des scénarios. J'en ai fait 3, en fait.
Alors, ces 3 scénarios de Dominique Médard, je vais y consacrer chacun un des 4 épisodes de ce podcast. Est-ce que j'ai fait une erreur de calcul ? Non, mais j'y intercalerai un épisode de mon cru. Vous verrez. Dans ce podcast, on parlera d'ubérisation, d'intelligence artificielle, d'allocation universelle, de retour à la nature. Et je finirai par trancher pour un de ces scénarios, ou pas. On verra. Mais avant de nous plonger dans le premier scénario de Dominique Méda, le démantèlement du droit du travail...
Allô ?
Allô ?
Vincent, ça
va ? Hey, salut Seb !
J'appelle 2 autres de mes amis...
Allô ?
Allô !
Coucou Sibylle, comment ça va ?
C'est Sébastien ?
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas d'aide plus précieuse que celle de ses amis.
Non, c'est vrai que tu ne m'appelles pas souvent.
Et parce qu'entre-temps, je me suis souvenu de la suite de mon rêve à l'Office pour l'emploi du futur.
Je sors de son bureau, un peu dépité, je m'assois dans la salle d'attente. Et puis, vous êtes là.
Ah ouais, dis dingue.
Vous me dites du genre, alors ?
Vous êtes là, Sibylle, Vincent, Florence ? Vous êtes de mon rêve ?
C'était pas pour moi, hein. C'était pour mes enfants.
Bien sûr.
Bah, vous étiez au courant.
Mais nous, on sait très bien ce qu'ils vont devenir.
Mais dites-le moi, parce que moi, je veux savoir.
Alors, tes enfants, ils vont devenir sculpteurs de Big Data.
Mais pas du tout, pas du tout ça.
Non, en fait, ils vont créer des œuvres.
Ils vont devenir instituteurs de chamanisme, parce qu'il y aura des cours de chamanisme à l'école primaire. Et donc, ils apprendront aux gens à se connecter.
C'est pas du tout ça. Ils vont devenir tout simplement des réparateurs d'objets connectés. Si, c'est comme ça que ça va se passer.
Mais non, dans le futur, les gens, ce qu'ils auront besoin, c'est d'une connexion avec la pluie, avec la neige.
Bon, quand j'ai dit que la meilleure aide venait de ses amis, je me suis peut-être un peu avancé. Mais enfin, tout est prêt maintenant pour entrer dans ce premier scénario de l'avenir du travail par Dominique Méda.
Le scénario du démantèlement du droit du travail, ça veut dire notamment de plus en plus de personnes sortent du salariat ou on diminue la place du salariat, donc on diminue les protections. Les personnes deviennent de plus en plus auto-entrepreneurs, auto-employées finalement, elles créent leur propre emploi. Et donc c'est une formidable régression par rapport à ce qui se passe depuis le 19e siècle où on a cessé de déployer... dans nos sociétés occidentales, des protections. Et on voit se déployer l'ubérisation de nos sociétés, c'est-à-dire c'est parti de quelques sociétés qui utilisaient les applications pour développer les taxis, la livraison, etc. Mais peu à peu, on voit que ça pourrait tout à fait s'étendre avec les plateformes de micro-tâches. Donc l'idée, c'est on a des tâches à faire, on les envoie vers la foule des internautes et ce sont des prestations qui sont très peu payées. Et moi, je vois avec la crise de la Covid, là, une aggravation de ces tendances, c'est-à-dire de l'externalisation, de la plateformisation du travail et un retour à ce qu'on appelait au 19e siècle le tâcheronat, c'est-à-dire vous avez des personnes ou des entreprises qui coupent le travail en petits morceaux et qui l'envoient vers la foule. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de salariat, il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus que dans le monde entier des travailleurs qui sont mis en concurrence les uns avec les autres.
L'ubérisation de la société. Si ce scénario s'imposait, à quoi ressemblerait le monde dans 20 ans ? Les taxis, la livraison à vélo, le logement avec Airbnb, tout ça n'aurait été qu'un début. Tout finirait par être ubérisé, même ce qui nous paraissait à l'époque parfaitement inubérisable, comme l'enseignement, les services publics, la culture, la mort, la religion... Mais avant d'extrapoler, revenons déjà aux mots.
Quand on parle de l'ubérisation, ben on fait de la publicité pour Uber chaque fois qu'on en parle.
Jean-François Neuven, juriste et ancien magistrat à la Cour du travail de Bruxelles.
L'ubérisation, c'est une forme d'organisation du travail dans laquelle une plateforme joue le rôle d'organisateur, puisque c'est grâce à la plateforme et aux applications informatiques qu'un client va être mis en relation avec un prestataire, avec un travailleur. Et donc la plateforme sert d'intermédiaire. Et tant le client que le travailleur sont connectés à la plateforme grâce à une application style smartphone.
Dit comme ça, ça a l'air plutôt cool, non ?
C'est une mise en relation très spontanée entre de l'offre et de la demande sur le mode quasiment du service entre copains.
Antoinette Rouvroy est philosophe et elle nous aide à mettre des mots sur les problèmes posés par l'ubérisation.
Il y a une sorte d'impression comme ça qui est donnée d'une très grande familiarité, de quelque chose de très cool. Ce que ça produit, ça, c'est que ben, tous les chauffeurs Uber sont quand même mis dans une concurrence absolue les uns par rapport aux autres, hein, puisqu'ils sont notés non pas par un patron, mais par tous les clients et quasiment en temps réel. On met des petites étoiles, des appréciations, des notations comme ça. Et ce qui met finalement les gens dans une très, très grande précarité. On n'est jamais suffisamment performant, suffisamment sympa, suffisamment souriant, suffisamment cool quand on conduit une voiture Uber. Et on est mis constamment en concurrence à l'échelle du clic. Donc ce que ça produit, c'est évidemment aussi une fragmentation de toutes les forces collectives qui auraient pu être des forces de négociation face aux plateformes. La force de travail est éminemment éclatée. C'est vraiment chacun pour soi, chacun dans sa voiture, chacun qui, en plus, amène directement ses outils de travail. Ce n'est pas l'entreprise Uber qui paye les voitures, qui paye les formations des chauffeurs, etc. Tous les frais sont assumés par le travailleur et les travailleurs ne peuvent pas, en fait, se mobiliser collectivement.
En ce moment, comme on peut le voir presque chaque semaine dans les journaux, on assiste à de véritables batailles judiciaires contre Uber ou Deliveroo, pour ne citer qu'eux, en Belgique, en France, en Grande-Bretagne, en Californie. Alors, Jean-François Neuven, c'est quoi le problème de l'ubérisation en termes juridiques ?
Il faut que le travailleur accepte en principe d'être indépendant. C'est comme ça pour toutes les plateformes. Et le problème naît de ce que dans la réalité, il n'y a pas de véritable indépendance. En tout cas, que cette indépendance apparaît un peu fictive. Et donc, c'est comme ça que le problème devient un problème juridique, puisque le travailleur peut aller devant les tribunaux, par exemple, pour demander au tribunal de requalifier, donc de donner une autre appellation à la relation de travail et dire que ce n'est pas une relation indépendante, comme ça a été dit au départ, mais que c'est une véritable relation salariée.
Et qu'est-ce qui se passe quand un travailleur va devant les tribunaux, avec Deliveroo, par exemple ?
Le premier jour, au début du procès, Deliveroo a tout de suite dit « Si vous nous forcez à occuper des salariés, on met la clé sous le paillasson. On arrête nos activités, on quitte la Belgique. On va travailler ailleurs, mais on ne travaillera plus en Belgique. » Dans leur modèle, ils n'envisagent pas que ça puisse être autre chose que des indépendants.
Et pourtant, il y a des indices très nets qui montrent que ces travailleurs ne sont pas indépendants, mais sont subordonnés aux plateformes comme le sont des salariés.
Par exemple, si un travailleur d'une plateforme est évalué de manière moyenne ou négative par les clients, à un moment donné, la plateforme a le droit de déconnecter le travailleur, qui donc ne peut plus travailler. Du jour au lendemain, il se retrouve sans travail. Donc il est quand même soumis à des contraintes et à des contrôles que normalement un indépendant n'a pas. Se retrouver comme ça sans travail du jour au lendemain, ça n'est normalement pas la situation d'un travailleur indépendant.
Et c'est quoi les solutions juridiques qui sont sur la table pour le moment ?
Alors, je dirais qu'il y a deux grandes tendances. Il y a une première tendance qui est de dire on a un système avec deux possibilités, soit salarié, soit indépendant. Et il faut faire en sorte que dans ce système, le chauffeur ou le travailleur de plateforme occupe la position qui est la sienne, soit salarié, soit indépendant. Et là, vous avez des gens qui disent non, c'est plutôt des indépendants, d'autres qui vont vous dire c'est plutôt des salariés. Et puis, vous avez une deuxième option qui est de dire les plateformes, c'est tellement spécifique qu'il faut créer un troisième statut. Et par exemple, au Royaume-Uni, les travailleurs de plateforme ne sont pas indépendants, ils ne sont pas non plus employés ou travailleurs salariés, mais ils ont un statut de worker. Et le worker, c'est ce troisième statut, ce statut intermédiaire entre l'indépendant et le salarié. Ça veut dire qu'ils ont une certaine protection. Et tout récemment, un tribunal du Royaume-Uni vient de décider qu'ils doivent bénéficier des mêmes protections de leur santé que les salariés. Alors, en Belgique, il n'y a pas grand monde qui est favorable à ce troisième statut, parce qu'on dit de manière un peu pragmatique, c'est déjà compliqué avec deux. On a déjà du mal à tracer la frontière entre les indépendants et les salariés, en particulier pour les travailleurs des plateformes. Donc si vous créez un troisième statut, vous aurez encore plus de frontières. Vous risquez encore de démultiplier, d'augmenter les problèmes.
C'est le matin. Vous descendez les marches de votre immeuble 4 à 4 en consultant votre smartphone. Vous ne savez pas encore quel métier vous allez faire ce matin. Ah, il y a une annonce pour le ramassage des déchets dans votre quartier. Camionnette, permis de conduire, gants, vous possédez le matériel nécessaire. Vite, il y a deux autres personnes qui consultent l'annonce, vous acceptez. Cet après-midi, vous enseignerez les maths dans un établissement secondaire. Ce soir, vous servirez les repas dans un hôpital. Cette nuit, vous interviendrez pour tapage nocturne en uniforme de police. Ce qui est bien depuis que les services publics ont été ubérisés, c'est qu'il n'y a jamais deux journées qui se ressemblent. L'ubérisation des services publics, du ramassage des déchets, ça vous paraît plausible, ça, Jean-François Neuven ?
Le service public, c'est quand même soumis à certaines contraintes, et notamment à des contraintes de continuité. On pourrait très bien arriver à une situation où il n'y a personne qui est intéressé par le service offert par la plateforme, ce qui aurait comme conséquence qu'il n'y aurait plus personne pour ramasser les immondices dans votre quartier ou dans la ville. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à ça, que par exemple, le service public est soumis à une loi de continuité, à un principe de continuité qui ne peut pas être simplement l'offre et la demande organisée par une plateforme. Il faudrait s'assurer qu'à tout moment, il y ait suffisamment de personnes qui vont sur la plateforme pour se proposer, pour effectuer tel service. Donc je pense qu'il y a, pour certains métiers, en particulier dans le secteur public, quasiment des impossibilités de tout faire par le biais des plateformes.
Donc ouf, mon scénario de l'ubérisation des services publics, apparemment, ça serait pas pour demain. Par contre, Uber et l'ubérisation semblent quand même avoir de beaux jours devant eux.
Uber, enfin on parle toujours du même, mais Uber, ils font 14 milliards de chiffre d'affaires par an, mais ils font actuellement 8 milliards de pertes, donc leur activité en réalité n'est pas rentable, mais en bourse, on les a valorisés à concurrence de 50 milliards de dollars. Donc, c'est l'espoir qu'ils vont s'imposer à l'avenir qui fait que des gens, enfin, des investisseurs, ont acheté des actions Uber alors qu'actuellement, le service n'est pas rentable. Mais ils sont tellement convaincus, ces investisseurs, qu'à long terme, la plateforme va s'imposer et va tout écraser, va écraser le système du transport de personnes, qu'ils sont d'accord de prendre le risque d'investir autant d'argent pour un service qui actuellement n'est pas rentable.
Vous venez de recevoir une notification de l'application Curriculum Futurae.
Monsieur Dissonner, combien d'offres d'emploi du futur avez-vous consulté aujourd'hui ?
On n'en fait jamais assez pour elle. Hein.
Enregistrez message.
Aucune, chère conseillère du futur. Mais en voici une qui devrait pas mal correspondre à notre scénario de monde ubérisé. Tu aimes l'escalade ? Le parcours avec un K ? Tu as l'esprit d'un aventurier ou d'une aventurière ? Deviens Drone Catcher, à mi-chemin entre le jeu Pokémon Go et le job de Juicer, qui consiste à charger les trottinettes électriques en ville. Grimpe au sommet des toits des villes avec ton propre équipement et grâce à ton application géolocalisée, sois le premier ou la première à attraper les drones perdus. Tu sais qu'Amazon n'effectue plus ses livraisons que par drone maintenant. Mais tu ne sais peut-être pas que chaque jour, un faible pourcentage de la flotte ne revient pas à bon port. Victime de petits plaisantins, d'intempéries ou du vol en piqué d'un faucon pèlerin. Le premier ou la première sur place à récupérer le drone gagne le prix de la course. C'est fun, hein ? Il est fortement conseillé de souscrire à une assurance contre les chutes à tes frais.
Moi,
Moi, comme tu sais, j'habite dans une sorte de tour. Et donc, le soir, souvent, je regarde par la fenêtre arrière et je vois les toits des maisons. Et je vois souvent des toits plats. Et des fois, il y a des graminées qui poussent. Puis, il y a les martinets noirs qui arrivent. Ils vont arriver là. Et donc, j'imagine que tous les toits sont verts et que, en fait, les animaux sauvages viennent vivre sur les toits des villes. Des chevreuils, par exemple, des rapaces, c'est dans le ciel, mais des renards, des lièvres, et aussi des maraîchers sur les toits, et puis des ponts, tu vois, des ponts en bois. Mais en même temps sur les ruines aussi, des vieilles piscines, tout ça, où la verdure a repris ses droits. Voilà. En fait, on est dans un monde un peu post-apocalyptique, mais où il y a peut-être des sortes d'arbres aussi qui ont commencé à pousser et qu'on est dans une autre, un peu une autre dimension du monde.
Dans les moments où tu attends que ton application sonne, peut-être que tu peux chasser le lièvre ou, je sais pas, cultiver quelque chose sur un toit en attendant, en fait.
Tout à fait. Faire des récoltes sauvages de baies, ou là, par exemple, c'est l'époque pour ramasser l'ail des ours.
Une sorte de chasseuse-cueilleuse des toits, comme ça.
Voilà.
Et si Hubert et consorts ont de beaux jours devant eux, c'est peut-être aussi pour d'autres raisons. Et ça, c'est le sociologue spécialiste dans Uber, Laurent Wartel, qui le dit.
Moi, mon terrain, donc, c'est les taxis Uber.
Et Laurent Wartel nous prévient, ce qui est valable pour les chauffeurs Uber ne l'est pas forcément pour les livreurs à vélo ou autres. Chaque plateforme a un profil de travailleurs très différent. Nous voilà donc prévenus.
Et en fait, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ce sont des profils, globalement, qui sont hors du salariat. Ce sont des gens qui sont soit incapables d'accéder au salariat, soit qui ne désirent pas aller au salariat. Le modèle le plus classique, c'est l'inaccès au salariat. Et alors là, il y a deux ou trois grands profils. C'est grosso modo lié à tous les problèmes de discrimination sur l'âge, le niveau d'études, donc la compétence, et les origines ethniques.
Parce que chez Uber ou Deliveroo, peu importe tes origines, ton âge, ton diplôme, on n'est même pas trop regardant pour savoir si tu as des papiers. À partir du moment où tu as ta voiture ou ton vélo et que tu bosses bien, eh bien, tu auras du travail. Et ça, mine de rien, il n'y a pas trop d'autres espaces qui le proposent dans notre société.
Tant que le salariat dysfonctionne pour des raisons de non-plein emploi, de discrimination, etc., etc., je veux dire, on pourra tirer autant qu'on veut pour dire qu'il faut leur donner des emplois salariés. Est-ce qu'on va y arriver, en fait ? Moi, j'ai vu des personnes, des ouvriers très taylorisés, très travail à la chaîne, qui m'ont dit « je faisais ça pendant 30 ans », qui font dans l'arme parce qu'ils perdent leur travail, puis qui t'expliquent à quel point ils aiment Uber, parce que en fait, ils retrouvaient de place nulle part, et typiquement, c'est quelqu'un qui s'est pris un plan Renault dans la figure et qui voit ça comme une opportunité, et donc il n'est pas du tout dans la haine de l'ubérisation, etc. Pour lui, c'est une opportunité, s'il respecte les seuils, de transiter jusqu'à la pension, parfois pendant 10 ans. Et il faut bien comprendre, ceux qui n'aiment pas le modèle d'Uber, ça fait longtemps qu'ils ont déjà été dégagés. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous leur demandez c'est quoi que vous préférez dans ce métier-là, alors vous ne devinerez jamais ce qu'ils vont vous dire. Ils vous disent la liberté. Et alors c'est marrant parce que vous, en tant que chercheur ou militant ou quoi, vous vous dites mais en fait, il n'y a rien de plus coercitif, il y a les data et machin. Et en fait, c'est parce qu'il faut comprendre ça relativement à ce qu'ils pourraient avoir. L'alternative, c'est quand même souvent, comme je l'ai dit, travailler à la chaîne, travailler sur des marchés avec un patron qui lui dit « Ouais, il faut que tu aies porté 100 caisses de, je sais pas moi, de melons, de bananes ou quoi. » Et c'est très dur, ça, en fait. Et là, il t'explique « Ah, mais moi, j'ai besoin d'aller chercher mon enfant à l'école, je me déconnecte de l'application. » C'est la disparition du contremaître qui fait chier, en fait. C'est ça, le truc, il faut le dire comme il est. Alors, en fait, il n'a pas disparu, ce contremaître, c'est juste qu'il fonctionne sur les data.
Et à propos de data, justement ?
L'ubérisation et l'intelligence artificielle dans une question de futur, c'est extrêmement important, surtout si t'aimes bien la SF.
Oui, j'aime bien la SF. Est-ce que du coup, tu peux un peu développer ?
Ce qui est au cœur de tout ça, c'est la donnée numérique. Mais il y a même des gens qui vont vous dire qu'en fait, le business model d'Uber, c'est pas l'intermédiation entre une offre et une demande de travail. Ça, en fait, c'est un moyen pour collecter des data vers la voiture autonome, vers la smart city, etc. Et donc, effectivement, il y a cet enjeu-là. En fait, aujourd'hui, qui possède des millions de données, de photos, de feux rouges, de data de conduite, de la manière dont les gens conduisent, etc. Ben, c'est Waze, c'est Google, c'est Uber. Et donc, en fait, vous avez besoin de ces données pour entraîner les algorithmes, pour qu'après, ces algorithmes puissent conduire tout seuls.
Donc, on offre gratuitement nos données à ces entreprises pour qu'ensuite elles puissent nous remplacer, c'est ça? Et on peut faire quelque chose contre ça?
Pour moi, le plus grand combat collectif de gauche, pour faire vraiment très simple, c'est la question des data. La question de la production, du stockage, de la vie privée, enfin de tout ça.
De la
propriété, oui, bien sûr. Mais le jour où il y aura des voitures autonomes, comment est-ce que la richesse produite par ces voitures autonomes, autre chose, par ces robots, va être redistribuée?
La collectivisation des données, ça pourrait, selon Laurent Wartel, être un des grands combats de demain. C'est marrant, il flotte comme un petit parfum de communisme 2.0 sur cette idée, non? Comme une rumeur d'international, rebaptisée pour l'occasion international, comme e-book, e-commerce, e-mail. L'international. Je me demande quelles en seraient les paroles.
Debout les damnés de Twitter, debout les forces des data, la fin du micro-travailleur, s'émanciper de l'IA. Des données, faisons table rase, crowdsourcing, debout, debout. Changeons de base de données, n'offrons plus, reprenons tout. C'est le hacking final, en visio et demain. L'international sera le web humain. C'est le
L'ubérisation semble s'installer dans le paysage. En même temps, il semble qu'elle ait des limites. Mon scénario de l'ubérisation de la société était sans doute exagéré. Mais est-ce que derrière ne se cacherait pas une deuxième phase, telle que Laurent Wartel le suggère, une phase d'automatisation du monde? Ça, c'est le deuxième scénario de Dominique Méda, et c'est pour le prochain épisode.
Curriculum Futurae, une production du Centre Vidéo de Bruxelles. Écriture, réalisation et montage, Sébastien Dissonner. Mise en onde, Aurélien Lebourg. Sound design, Anne Lepère. Musique originale, Fièvre. Prise de son, Aurélien Lebourg, Pierre Devalet et Arnaud Merton. Production déléguée, Cyril Bibas et Marc Jotard. Direction de production, Joël Kurtz. Avec, par ordre d'apparition, Dominique Méda, Jean-François Neven, Antoinette Rouvroy et Laurent Wartel. Les trois amis, Sybille Cornet, Florence Klein et Vincent Tholomé. Coach Cœur, Maya Yantar. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Fonds Gulliver, de la RTBF et de la CSR.